Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise et bonjour chers auditeurs.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, cette semaine sur Radio Judaïka, vendredi pour être précis, nous avons parlé du rôle de la diplomatie occidentale dans le conflit qui oppose Israël, le Hamas et puis maintenant l'Iran et ses proxys. Et nous voulions aborder un certain sujet avec vous, c'est la Russie et la Chine. La diplomatie contrôle-t-elle la situation et la désescalade quand on parle de la Chine et la Russie, et peuvent-ils aider?
Alors, vous avez raison de poser cette question, puisqu'en ce moment, on attend. On est dans l'attente. Et souvenez-vous qu'entre l'attaque du 1er avril, où Israël avait tué un général des gardiens de la Révolution à Damas, et la frappe de l'Iran, il s'est écoulé 14 jours. Donc, on est en attente. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les diplomaties sont déchaînées un peu partout pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une désescalade ou qu'on cesse d'être au bord de l'abîme, et peut-être que c'est les grandes puissances qui peuvent être décisives. Juste un mot quand même avant de parler de la Russie et de la Chine, parce que c'est vrai qu'on en entend peu, mais qu'elles ont un rôle important. Il faut rappeler que la diplomatie américaine, c'est quand même elle qui est à la manœuvre, on le voit, et en rappelant peut-être que la visite de Netanyahou au mois de juillet avait pour but de peut-être que c'était coordonné avec ce qui s'est passé ensuite, avait pour but de mobiliser un peu les États-Unis en faveur d'Israël en disant nous sommes dans le même bateau, hein, nos ennemis sont communs et notre riposte doit être commune. Donc c'est ce qui entraîne ce que passait et d'une certaine mesure, Israël bénéficie quand même d'une certaine complaisance américaine dans la mesure où d'une part Bibi est allé, a fait son travail sur l'opinion publique et surtout que Biden n'est plus candidat. Donc il a un peu les mains un peu plus libre et pendant ce temps-là, Kamala Harris, elle fait attention à ce qu'elle dit, mais elle dit pas grand-chose. Donc on s'aperçoit que les Américains laissent les Israéliens un petit peu la main libre, au moins sur Gaza, je vais le rappeler, parce que en même temps qu'il y a de la diplomatie, les opérations militaires n'ont pas cessé, elles continuent. Beaucoup même à Gaza, alors non plus par des bombardements massifs, des tanks et des commandos, mais par du renseignement et des attaques ciblées. Et ça semble bien fonctionner. Les Israéliens ont quand même annoncé que le travail à Gaza serait long, qu'il y a un travail de destruction des tunnels et des usines à roquettes qui n'est loin d'être terminé. Hein, on parle de semaines et de mois. Donc ça, les Américains, au fond, les laissent faire. Par contre, les Américains négocient au fond à deux niveaux, négocient sur les otages, en pensant que peut-être qu'un cessez-le-feu pourrait être cet élément de désescalade. Mais on est quand même dans la situation qui est très ancienne, à savoir que contre les otages, qu'est-ce que demande le Hamas? Et donc les demandes du Hamas sont inconsidérées. Personne ne peut les accepter parce que les accepter, c'est une défaite tellement grave pour Israël que ça entraînerait des effets à long terme tellement négatifs qu'on peut pas, même pas y songer. Et les Américains le savent et donc n'insistent pas plus. Il y a une autre forme de négociation qui est la dissuasion. Hein, j'en ai parlé souvent avec vous à ces conversations. Et ici, on voit bien que la dissuasion est à l'œuvre, la dissuasion américaine, en particulier avec d'une part la mise en alerte de CENTCOM, qui est le commandement central américain qui est au Qatar. Le patron de ce CENTCOM, Kuria, le général Kuria, est dans la région. C'est-à-dire en Israël, il fait le tour, il revient. Donc on s'aperçoit, comme au mois d'avril, hein, ça rappelle le scénario du mois d'avril, hein, qu'il est à la manœuvre et qu'il prépare des choses. Et pendant ce temps-là, les Américains ont envoyé des nouveaux bateaux, plus d'avions en Méditerranée orientale, donc face au Hezbollah, avec l'idée qu'il faut les dissuader. Mais on sait aussi que la dissuasion, c'est pas seulement sur le Hezbollah et sur l'Iran, c'est aussi sur Israël, parce qu'Israël brûle de mettre fin à la double menace que représente le Hezbollah au nord avec ses 160 000 missile et l'Iran avec sa bombe atomique qu'elle continue de préparer. Donc il faut aussi dissuader les Israéliens. Donc voilà, c'est double dissuasion américaine et la Russie et la Chine. Donc c'est la question que vous me
Oui,
posiez.
justement, au-delà des États-Unis, la Russie et la Chine, quel est leur rôle dans ce conflit, Daniel Abbé?
Alors, les deux, si vous voulez, sont à la fois loin du conflit d'une certaine manière et ils ont bien d'autres priorités. Donc, sur la Russie, c'est clair que l'Ukraine, surtout en ce moment où elle est attaquée sur son propre sol, la mobilise complètement. La Chine, elle a eu son grand rassemblement du parti qui a tourné autour des problèmes de l'économie, uniquement de l'économie, la relance économique. Ça, c'est la priorité des priorités pour les Chinois. Donc, ils vont pas s'aventurer dans d'autres aventures. Mais, et Taïwan et la confrontation avec les États-Unis compte beaucoup. Et donc, tout ce qui se passe ailleurs que dans les mers du Sud, c'est à leur avantage. Donc, Russie et Chine ont des choses à dire. Alors, pour la Russie, finalement, elle avait obtenu ce qu'elle cherchait, c'est-à-dire protéger la Syrie des Assad. Les Assad sont toujours au pouvoir, hein, il est toujours là, et protéger le port qu'ils ont obtenu sur la Méditerranée orientale, près de Latakié. On n'a pas l'impression que la Russie veuille faire beaucoup plus. On voit la Russie laisse Israël bombarder les milices pro-iraniennes qui sont en Syrie. Et en contrepartie, Israël essaye de ne tuer que des Iraniens, parce qu'il y a beaucoup d'Iraniens en Syrie pour manipuler toutes les armes qu'ils ont livrées à la Syrie. Et on voit bien que les Russes ne sont pas très heureux, et les Syriens non plus, d'une trop forte présence iranienne. Donc là, il y a quand même, sur le plan diplomatique, une certaine complaisance russe vis-à-vis d'Israël, qui est ancienne et qui semble perdurer. Donc, au fond, la vraie question que vous me posez, c'est la Chine. La Chine, c'est un acteur un peu invisible, oui? Oui, c'est ça. Donc, elle est là, la Chine. Il faut quand même rappeler que, avant le 7 octobre, la Chine était très présente, mais c'était surtout sur le plan économique. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, elle a besoin de pétrole et elle vend beaucoup de choses. Et ceci avait été structuré dans des accords stratégiques à long terme signés au fond avec tous les acteurs de la région. Donc on voyait bien que pour la Chine, la stratégie était claire, c'est je suis l'ami de tout le monde et je signe avec tout le monde des accords de partenariat, mais qui sont surtout économiques. Et donc l'aventure de la Chine vers la géopolitique au Moyen-Orient, c'était surtout ce rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite dans le passé, mais bon, ça semble bien lointain. Et au fond, la Chine a été prise de court par le 7 octobre, clairement. Et donc ils ont vite réévalué. Et ce qu'on peut faire pour répondre clairement à votre question, c'est faire un petit bilan sur la politique de la Chine au Moyen-Orient aujourd'hui, après le 7 octobre. La priorité, ça reste quand même l'économie, parce que c'est la justification de la présence chinoise au Moyen-Orient. Cette présence est très forte et elles veulent qu'elle perdure. Donc, c'est les grands acheteurs de pétrole, c'est les grands fournisseurs non seulement de biens de consommation et d'équipements, mais aussi ils construisent beaucoup d'infrastructures. Donc, ils ont beaucoup de Chinois qui sont présents dans toute la région. La deuxième chose, oui, ils brûlent de transformer cette relation économique en relation géopolitique, mais ils s'aperçoivent qu'il faut qu'ils révisent un petit peu leur histoire et leur géographie, parce que entre la situation qu'ils avaient à peu près comprise, qui était trois anciens empires, l'Empire ottoman, l'Empire perse et l'Empire arabe, ce qui en reste aujourd'hui, qui sont en rivalité, elle était là à essayer de comprendre quelque chose et est venue se greffer les deux conflits chauds, l'Ukraine et Gaza, et qui a transformé le paysage en deux camps. Le camp chiite autour de l'Iran, un camp qui est en construction depuis plus de 25 ans. Donc un camp qui est stable, qui est opérationnel. D'ailleurs, il est en pleine activité. Puis en face, un camp sunnite qui est en train seulement de se construire, à qui il manque encore l'Arabie saoudite. Et c'est pour ça que l'attaque du Hamas a mis fin à cette négociation qui reprendra peut-être. Donc il manque encore les Saoudiens. Mais ils ont un avantage, le camp sunnite, c'est que les Américains sont derrière. Les Américains, eux, ils sont prêts à offrir ce qu'on appelle des garanties de sécurité que la Chine, elle, n'offrira jamais. Et d'ailleurs, on voit pour compléter ce tableau que la Chine est extrêmement prudente dans ce qu'elle fait sur le plan géopolitique. Par exemple, elle refuse toute idée qu'elle livre des armes à l'Iran. Alors, c'est vrai qu'elle livre des composants, des machines, etc. Peut-être qu'elle livre des armes à travers la Corée du Nord, ça, c'est un grand mystère, mais officiellement, elle ne le fait pas. Et la deuxième preuve, et on l'avait abordée entre nous à une conversation précédente, ils ne s'aventurent pas en mer Rouge alors qu'ils ont la voie libre, les Houthis leur disent, vous pouvez y aller, parce qu'ils ne veulent pas risquer la moindre chose. Donc, on voit bien une immense prudence. Alors, qu'est-ce qui reste pour la Chine? C'est. Essayer de comprendre comment on peut être présent dans cette région sans choisir son camp. Voilà. Est-ce qu'on peut être près de l'Iran, comme ils le sont? On voit bien qu'il y a un échange d'armes entre la Russie et l'Iran et qui est béni par la Chine. La Chine ne livre pas d'armes, mais peut-être des composants. Et surtout, elle s'est présentée comme celle qui voulait pousser la solution à deux États. C'est-à-dire qu'elle s'est mise en avant sur la question palestinienne. Et donc, ça veut dire que. Oui?
Daniel, si vous le voulez bien, on va devoir conclure parce que nous arrivons à
Oui,
la fin de nos conversations. Alors,
justement.
quelle est votre conclusion?
La conclusion, c'était que les Chinois, eux, ont pris l'option que la question palestinienne était centrale dans la résolution de l'escalade qui est en cours, et ils se trompent. Ils se trompent parce que d'abord, il n'y a pas de solution en vue, et deuxièmement, ce n'est pas la question centrale. Et effectivement, je vous propose qu'on analyse ça plus en détail dans une prochaine conversation.
Et on le fera parce que le rôle de la Russie et surtout de la Chine, qui est relativement comment dire, discrète sur ce conflit, ça nous intéresse sur Radio Judaïka. Merci beaucoup, Daniel Haber, d'avoir été avec nous
Bien
ce
sûr,
matin.
et on en parlera la prochaine fois, absolument.
On se revoit, on se réécoute plutôt lundi prochain pour de nouvelles conversations. Merci, Daniel
Avec
Haber.
plaisir, avec plaisir. Au revoir.